franceinter.fr. Mon voisin commença à me poser des questions, comme si on lui avait appris à ne pas oublier de le faire. Et je me demandais d'où ou de qui il tenait cette leçon que tant de gens ne retiennent jamais. Je répondis que je vivais à Londres, que j'avais récemment quitté la maison en pleine campagne, où j'avais vécu seule avec mes enfants ces 3 dernières années, et qu'avant cela, nous avions partagé avec leur père pendant 7 ans. En d'autres termes, j'étais restée dans ce qui avait été notre foyer familial, pour le regarder devenir la tombe d'une chose qui, pour moi, ne s'apparentait plus vraiment ni à la réalité, ni à une illusion. Il était impossible d'expliquer pourquoi le mariage s'était ainsi dissous. Un mariage est un système de croyances, une histoire. Et même s'il se manifeste à travers des choses plutôt concrètes, la force qui le nourrit est au bout du compte mystérieuse. Concrètement, à la fin, il eut la perte de la maison qui incarnait alors le lieu géographique où des choses avaient disparu et représentait, j'imagine, l'espoir qu'elle réapparaîtrait peut-être un jour. D'une certaine façon, déménager revenait à affirmer que nous avions cessé d'attendre. Nous n'étions plus joignables au numéro habituel, à l'adresse habituelle.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Juste avant de prendre l'avion pour Athènes, où elle doit animer pendant 2 jours un atelier d'écriture, la narratrice a déjeuné dans un club londonien avec un milliardaire qui envisage de lancer un magazine littéraire. Pendant tout le repas, l'homme lui a raconté sa vie et les projets pharaoniques auxquels il songe. En face de lui, son invité se demande si en fait il ne rêve pas aussi de devenir écrivain. « Beaucoup de gens le veulent », se dit-elle, aucune raison de penser que l'argent n'est pas un moyen d'y parvenir. À peine assise dans l'avion, son voisin, un Grec de petite taille et très bronzé, entame la conversation. Et lui aussi très vite va se livrer, et en détail, y compris sur ses 3 mariages. De la narratrice, en revanche, on ne saura pas grand-chose d'autre que ces quelques mots. Écrivain, divorcé, mère de 2 enfants restés à Londres. Même son prénom, Fay, ne sera donné qu'aux 2/3 du livre. Mais peu à peu, c'est son portrait en creux qui va se dessiner, en écho aux histoires intimes, drôles, cruelles, étranges ou mystérieuses que lui raconteront tous ceux qu'elle rencontrera durant son séjour athénien. Le dernier livre de Rachel Cusk vient de paraître aux éditions de l'Olivier, qui les publie tous, dans les traductions de Céline Leroy, depuis le célèbre Arlington Park en 2007. « Distill » est le titre choisi en français pour ce « Outline » paru l'an dernier en Grande-Bretagne. Formidable construction littéraire, ironique et impitoyable, sur la comédie sociale, les jeux de rôle que s'imposent hommes et femmes quand il s'agit d'argent, d'amour, de mariage, de notoriété. Tout est forcément vrai dans ce récit d'un type nouveau où la parole vorace des personnages nous raconte 1001 histoires, 1001 romans, pour finir par faire apparaître, comme une ombre portée sur un mur, la nature profonde de celle qui les écoute. Rachel Cusk a réussi là, avec une virtuosité sidérante, à nous prouver que la vie réelle vaut toutes les inventions, à faire un roman avec ce que nous pensons être banal, à nous démontrer que la solitude n'est pas si terrifiante qu'on pourrait le croire avant d'y avoir goûté. Rachel Cusk est ce soir l'invitée de l'humeur vagabonde. Michel Zotowski sera notre interprète.
My nights are broken up by the sounds of women I'll never meet. And when my eyes are closed, I can start to feel you staring at me. The right side of my bed has always left me feeling stuck in between. Everything I know and all the lies I tell myself so I can sleep. Pick apart the pieces you left, and don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it. Let me worry. You came around to say that you'd be
wake up every single day not seeing you go. As if this moon of ours only shines a half to make me feel whole. As if I haven't felt your breath in every step I take when the wind blows. Pick apart the pieces you left, and don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest and let me worry about it. Pieces you left, don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest and let me worry about it. Let me worry about it. Pieces you left, and don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it. Let me worry about it.
Bonsoir, Rachel Kusk.
Good evening.
Après la parution de votre précédent livre qui s'appelait Aftermath, qui est paru en 2013 en France sous le titre Contre-coup, vous aviez dit, me semble-t-il, que pour vous, la fiction était devenue une forme littéraire tout à fait impossible à envisager, que ça vous semblait sonner faux et être toujours en dessous et en deçà de la réalité. Dans ce livre, disent-ils, Outline, vous relatez des conversations. Est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé dans la réalité une forme qui vous permet de faire de la littérature avec des choses vues et entendues?
Well, I think the book is a sort of literary equivalent of a midlife crisis.
Je crois que ce livre est l'équivalent de la crise de la mi-vie.
I think that people, most people are familiar with.
La plupart des gens sont
idea that in middle age,
familier avec l'idée que, au mi-temps de votre vie, vous arrivez à une certaine construction de la réalité et que cette construction de la réalité est complètement détruite et semble artificielle. Eh bien, moi, j'ai eu des sentiments semblables au sujet des formes littéraires et j'ai tenté de trouver une forme qui pourrait exprimer cette réalité qui s'effondre. Et c'était donc une non-forme, en quelque sorte. Et ça pourrait être aussi la description du silence.
C'est aussi ce qu'on pourrait appeler, sans paraphraser Henry James, un portrait de femme, mais un portrait de femme en nombre. Tous les personnages que vous faites parler et que votre narratrice, Fay, écoute attentivement, ils sont dans la lumière et elle est dans l'ombre. Mais quand on referme la dernière page de votre livre, tous les personnages qui se sont exprimés sont devenus des ombres chinoises et c'est elle qui est en lumière. C'est un procédé très particulier que vous avez employé, Rachel Kusk. Est-ce que c'est bien ainsi que vous vouliez dessiner ce portrait de femme?
Yes, so very much. It was two things. One was
c'était deux choses.
I suppose a politics of femininity at a certain point.
C'est une politique du féminisme.
As I say, after the collapse
d'un certain point de vue,
après various institutionalized
l'effondrement de diverses façons de vivre sa vie de femme, le mariage, la maternité. On se sent plutôt défini par tout ce qui est autour de vous plutôt que ce qui est à l'intérieur de vous.
I suppose the idea of the sort of silent woman
cette idée de femme silencieuse alors que tous les autres racontent leur histoire, ça raconte un petit peu ce que je sens en tant que écrivain en ayant lu les livres. On ne les voit pas, on ne les entend pas, on les internalise. Et finalement, on décrit ce que eux ont ressenti le monde. Donc j'essaie de reconstruire ce type de processus, mais qui vient de l'intérieur vers l'extérieur.
D'ailleurs, lorsque votre narratrice, Faye, rencontre à la fin du livre quelqu'un d'autre qui vient la remplacer à Athènes, qui s'appelle Anne et qui est une dramaturge qui n'arrive plus à écrire, Anne lui dit qu'il lui est arrivé au fond la même chose qu'elle dans l'avion. Un personnage à côté d'elle lui a raconté sa vie en détail et qu'elle, en l'écoutant, s'est sentie définie par le contraire de tout ce que cet homme racontait. Il connaissait plein de langues, il avait traversé des tas d'aventures. Il avait eu une vie heureuse, une famille nombreuse, et à chaque fois qu'il avançait un certain nombre de faits, elle se définissait par le négatif. C'est comme ça, ce sont des personnages de femmes qui, arrivés à un moment, sans doute après un divorce d'ailleurs, une perte, se définissent plus que par rapport aux autres. Vous en avez rencontré beaucoup, c'est là-dessus que vous avez envie d'écrire ?
I'm not sure I've met them.
Je ne suis pas sûr de les avoir rencontrés.
Perhaps I am one.
Peut-être que j'en suis un de ces personnages.
I think that the, I mean, it was very deliberate, obviously.
C'était à l'évidence très délibéré.
Way to end the novel with
une façon de conclure le roman avec ce narrateur silencieux, cette narratrice silencieuse qui à la fin rencontre quelqu'un qu'elle reconnaît ou que nous reconnaissons pour elle. Vous savez, il n'y a pas tellement d'intrigue dans ce roman, mais c'était le mouvement tel qu'il était dans ce livre, passer de l'anonymat le plus complet jusqu'à une définition de la personne qui parle.
Vous avez employé aussi dans ce non-roman, Rachel Kusk, une forme de récit très, très étonnante et très intéressante, mais qu'on reconnaît assez facilement dans la vie. Toutes les personnes qui s'adressent à votre narratrice, Faye, racontent énormément de choses et ne posent jamais de questions en retour. Ça dit quelque chose de notre époque, ça dit quelque chose sur le fait que les gens ont un besoin compulsif de se raconter, quand c'est pas à la télévision ou à la radio, c'est à son voisin d'avion, et qu'au fond, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la vie des autres.
Well, I think that was a. I'm aware that could look like.
Mais je suis conscient du fait que ça peut sembler être un message dans ce roman, que les gens n'ont pas d'empathie pour les autres.
Mais
l'analogie que j'essayais de définir dans ce roman, c'était entre parler et écrire. Beaucoup de gens à qui elle parle veulent être des écrivains. Et c'est véritablement cette question, ce qu'est l'écriture, entre guillemets, pour les autres personnes, cette personne qui n'ont pas le stigmate de l'artiste blessé, qui veut s'exprimer lui-même, mais dans cette forme disponible seulement. Et je voulais dire aussi quelque chose sur cette phase particulière de la vie, qui est la phase d'après, après que les systèmes de définition de soi se soient autodétruits, en quelque sorte. On pourrait avoir de l'information à partir des autres dans
information is there in,
parce que
in the novel.
Il n'y a aucune information sur leur vie dans le roman. La seule façon dont nous, lecteurs, pouvons en apprendre sur ces gens-là, c'est à travers ce qu'ils disent. Donc j'étais plus intéressé par ce qu'ils disaient que par ce qu'ils posaient comme question. Et puis je me suis rendu compte que c'était vrai aussi, que les gens, bon, peut-être qu'ils posent des questions une fois qu'ils ont parlé d'eux, ou une fois qu'ils se connaissent soi-même, alors à ce moment-là, ils peuvent commencer à voir l'autre comme étant quelqu'un de séparé.
Ce qui est particulier aussi dans Distill, Rachel Cusk, c'est que tous ces personnages que croise Faye pendant ces deux jours, ils lui font tous part d'un désastre. Alors c'est souvent un désastre de mariage ou de plusieurs mariages, et on a l'impression que tous ces personnages ont de la difficulté à marcher dans une vie en ruine. Et en fait, on a l'impression que la cause de cette déflagration, de cette bombe dans leur vie, c'est la rupture du mariage. Comme si après avoir vécu un rêve en commun, puisque vous parlez de ce mariage comme une histoire rêvée un peu, plus personne ne savait vraiment ce qu'il a au fond de lui-même, ce qu'il a envie de faire, s'il a même encore envie de faire quelque chose. Comme s'il y avait, après la destruction du mariage, une destruction de l'être même.
The book works very much through...
Vous savez,
anti.
Le livre
anti-matter.
Marche toujours par opposition à quelque chose, c'est l'anti-matière en quelque sorte. Ce que j'essaye de dire des choses sur le mariage en définissant des gens qui sont en dehors du mariage, des gens qui l'ont détruit ou qui l'ont perdu. Une autre chose qui fonctionne dans ce livre, qui est à l'œuvre dans ce livre, et pour moi c'est une analogie avec l'écriture elle-même, c'est mon intention de créer cette chambre d'écho dans le livre, qui pourrait être, si vous voulez, l'ombre d'un livre. Ou l'envers d'un livre. La chose dont les gens parlent, eh bien, ça définit la personne qui l'écoute. Et on commence à apprendre quelque chose sur la narratrice plutôt que sur les gens qui se racontent eux-mêmes. C'est de la même manière que l'écrivain choisit les matériaux pour écrire son livre. Ce qu'il choisit, ce qu'il prend, ce qu'il ne prend pas, qui recrée une réalité. Et c'est un processus tellement personnel. Je crois que ce que la narratrice demande, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à l'objectivité? Comment créer un monde d'écriture qui n'est pas formé comme vous, qui n'est pas comme vous, qui ne sonne pas comme vous? Cette tentative d'extérioriser son processus créatif, qui est exactement ce qui se produit dans le roman. Et à la fin des fins, elle trouve finalement quelqu'un qu'elle reconnaît. Elle peut, à la fin, se voir elle-même.
Effectivement, Rachel Cusk, il y a beaucoup question d'écriture, bien sûr, dans ce livre. Et les personnages que va rencontrer Faye tout du long de ces deux jours sont tous ou des éditeurs ou des écrivains. Et elle va rencontrer un vieil ami à elle, qui est un Irlandais, qui s'appelle Ryan, et qui, lui, a réussi à se réaliser, à devenir écrivain, à écrire son livre en quittant l'Irlande. Et puis un jour, bah, il y est revenu. On écoute.
Regarde les Irlandais, des siècles de pluie et de pommes de terre pourries. Son combat intérieur, cette chair contaminée, ne l'avait jamais laissé en paix. Il était si difficile de se sentir sain en Irlande comme il l'avait ressenti en Amérique ou ici. Je lui demandais pourquoi il était rentré au pays, et il me dit que les raisons étaient légion, même si aucune n'était plus valable qu'une autre. Mais additionnées, elles avaient pesé suffisamment dans la balance pour le pousser à rentrer. À vrai dire, l'une d'elles était ce qu'il avait le plus apprécié aux États-Unis au début. Là-bas, les gens ne venaient de nulle part. Bien sûr, dit-il, ils venaient forcément de quelque part, mais il n'y avait pas là-bas ce sentiment que votre ville natale vous attendait pour célébrer votre retour. Pas plus que cette impression de déterminisme, dont il s'était miraculeusement départi, en s'élevant pour la première fois au-dessus des nuages. Toutefois, les autres étudiants firent grand cas de ses racines irlandaises, dit-il. Du coup, il en joua, prit l'accent et le reste, jusqu'à se convaincre, ou presque, qu'être irlandais était une identité en soi. Et après tout, quelle autre identité avait-il ? Il redoutait un peu cette idée de ne venir de nulle part. Peu à peu, il ne vit plus ses origines comme une malédiction, mais comme une bénédiction. Renoua presque avec ce bon vieux concept de déterminisme, ou du moins le considéra sous un jour différent. L'écriture transmua cette douleur. L'Irlande était la structure qu'il lui fallait, son passé à Tralee, la structure qu'il cherchait. Il s'aperçut soudain qu'il ne supporterait sans doute pas l'anonymat fondamental de l'Amérique. Pour être franc, il n'était pas l'étudiant le plus talentueux du séminaire, il l'admettait sans problème, et d'après lui, cela était dû à cet anonymat avec lequel ses pairs devaient se débattre et pas lui. Ça fait de toi un meilleur écrivain, non, de ne pas pouvoir te replier sur une identité. Il y a moins de filtres entre le monde et toi. Quant à lui, il était plus irlandais aux États-Unis qu'il ne l'avait jamais été dans son pays.
Rachel Cusk, la recherche, la quête de soi-même entreprise par Ryan, l'ami de votre narratrice, c'est intéressant parce qu'il est devenu écrivain en s'expatriant et puis finalement il ne peut pas vivre loin. Et dans votre livre, il y a une phrase assez triste. Vous dites, au fond, nous sommes tous des animaux dans un zoo. Quand l'un d'entre nous sort de l'enclos, nous lui hurlons de prendre la fuite, alors qu'au final, nous savons bien qu'il ne pourra que se perdre. C'est une réflexion assez amère sur le fait que pour écrire, il faut se trouver une identité, mais est-ce que c'est vraiment la bonne ?
Well, I think that one thing I know...
Une des choses que je sais, qui a à voir avec cette citation que vous venez de faire sur l'écriture, où il faut quitter le zoo. Il faut absolument quitter le zoo.
Et
aller vers des endroits où vous n'êtes pas absolument en sécurité pour pouvoir être libre. C'est intéressant.
Une
partie de ce que je dis sur les auteurs n'est pas très flatteur. Comme tous, ils sont avides d'argent, ils cherchent des façons de se promouvoir. Mais il y a une réalité à l'écriture, comme dans tout autre travail. Et ça m'intéressait non pas de jeter une lumière là-dessus, mais de l'inclure dans ce roman, même au risque de m'aventurer sur ce territoire autobiographique, qui pourrait être un problème d'ailleurs. Je crois que s'échapper ou ne pas s'échapper, mais rester loin de ces sources fiables, comme l'identité, par exemple, eh bien, c'est une forme vitale de courage, je pense, pour un écrivain. Et oui, une partie de ce que je montre dans le roman, c'est cette tentative de se protéger et de ne pas avoir cette liberté.
Alors, dans les rares aperçus que Faye donne de temps à autre dans votre livre, Rachel Cusk, sur elle-même, elle raconte à un moment à son voisin d'avion l'histoire de ses deux fils qui, lorsqu'ils étaient petits, arrivaient à jouer merveilleusement ensemble. Ils s'étaient créé un monde de fantasmes à deux, ils y croyaient, et puis tout d'un coup, l'un des deux a grandi, a cessé d'y croire, et ils ont arrêté de jouer ensemble. C'est une très jolie histoire sur l'enfance et ce que c'est que grandir. C'est aussi une métaphore très cruelle du mariage ou d'une relation d'amour ou de quelque relation que ce soit entre deux personnes. Il faut croire à l'histoire, au mythe que l'on crée. Si l'un des deux cesse d'y croire, il n'y a plus de relation possible.
Part of what that... story about the children is about is the loss of creativity.
Vous savez, en partie, cette histoire sur ces deux enfants, c'est la perte de la créativité. Et en fait, dans la suite de ce livre, dit-il, je m'en occuperai de façon plus profonde. Dans ce roman-là, Ça peut être vu quasiment comme l'explication de la raison pour laquelle les gens se réunissent dans des salles pour devenir écrivains, pour pouvoir puiser à cette rivière magique, cette imagination, voir des choses à travers l'amour, le lien avec une autre personne. Et il y a ce besoin d'innocence pour le faire. Des gens qui veulent être reliés à nouveau, liés à nouveau à ça, à cette source. Oui, c'est vrai. C'est, en fait, on le rejoue quand on aime en tant qu'adulte, c'est un sentiment de retour à cette enfance, à cet espace magique de l'enfance, de l'imagination de l'enfant, cette vision partagée de choses que personne d'autre ne peut voir.
Alors, on parlait tout à l'heure de ceux qui s'échappent volontairement du zoo, mais il y a aussi ceux qui sont poussés en dehors du zoo, en dehors du troupeau, comme ces femmes qui se retrouvent, comme Angeliki, dans des capitales où elle est allée avant avec son mari. C'est une des femmes que Faye va rencontrer à Athènes. Et lorsqu'elle y retourne toute seule, après son divorce, étant devenue une écrivaine à succès, eh bien, elle considère que le monde a changé et qu'elle ne reconnaît plus rien.
Angeliki prit la carafe et avec mélancolie se versa une larme de vin avant de remplir mon verre presque à ras-bord. « Mon mari étant diplomate, dit-elle, nous avons beaucoup voyagé, évidemment. Mais quand je voyage seule pour mon travail, je ne le vis pas du tout de la même manière. J'admets avoir eu peur, des fois, y compris dans des endroits qui me sont assez familiers. » En Pologne, j'étais très nerveuse, parce que je ne connaissais quasiment rien du pays, à commencer par la langue. Mais une partie du problème au début résidait surtout dans le fait que je n'avais pas l'habitude d'être seule. Par exemple, poursuivit-elle, nous avons vécu à Berlin pendant 6 ans, mais en y allant seule en tant qu'auteur, les lieux me paraissaient inconnus. En partie parce que je découvrais un nouvel aspect de la ville, son milieu littéraire auquel j'étais totalement étrangère avant. Et en partie parce que, y être sans mon mari, m'a donné une image de moi totalement inédite. Je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment possible de savoir exactement ce que l'on est dans le mariage, répondis-je, ni même de séparer ce que l'on est de ce que l'on est devenu à travers notre conjoint. Il me semble que l'idée d'un moi essentiel est trompeuse. Autrement dit, on peut avoir l'impression qu'il existe un moi séparé et autonome, mais peut-être n'existe-t-il pas vraiment. Un jour, ma mère nous a avoué, racontai-je, que le matin, elle avait toujours hâte de nous voir partir pour l'école, mais qu'après, elle ne savait plus quoi faire de ses 10 doigts et aurait aimé nous retrouver sur le champ. Encore aujourd'hui, alors que ses enfants sont adultes, elle met un terme à nos visites de manière assez vigoureuse, nous renvoie vite chez nous comme si quelque chose de terrible risquait d'arriver si nous restions. Pourtant, je suis presque sûre qu'elle fait encore l'expérience de la perte après notre départ et se demande bien ce qu'elle cherche par cette attitude. Et pourquoi il lui faut nous éloigner d'elle pour revivre cette expérience ? Angeliki fouilla dans son élégant sac argenté, en sortit un carnet et un stylo. « Excusez-moi, dit-elle, mais il faut que je note ça. » Elle écrivit un moment, puis leva les yeux et dit « Pourriez-vous répéter la seconde partie ?»
Rachel Kusk, en dehors du fait que ce petit passage de votre livre est d'une ironie absolument dévastatrice, ça nous fait nous poser une question sur ce que une femme ou un homme, sans doute, ce qu'on est dans un mariage, on est quelqu'un, et quand on n'est pas dans le mariage, on est quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas de coïncidence entre la personne en couple et la personne seule sans le couple.
Well, I think that that particular passage and the character of Angeliki,
ce passage particulier et le personnage d'Angeliki représente, disons, en tant qu'écrivain, je suis très intéressé par les femmes, l'évolution incomplète de l'identité féminine. Et ce que j'essaie de faire dans ce roman, c'est de montrer les gens à diverses étapes de cette évolution avec la narratrice, Faye, qui est véritablement le point, le dernier point que l'on peut voir sur l'horizon. Et cet endroit où elle est, c'est un endroit d'annihilation et de silence, de rien. Eh bien, le personnage d'Angeliki, elle est au milieu de la route. C'est le zoo à nouveau. Elle y a échappé. Elle est à moitié échappée au zoo. Et elle se rend compte que son autonomie est partielle seulement. C'était une façon très aisée pour moi de m'exprimer comme des points dans mon propre travail, dans mon propre parcours. J'ai beaucoup écrit sur les femmes dans des milieux, dans leur ménage, la classe moyenne. J'ai parlé de l'institution du mariage, les femmes qui regardent à l'extérieur de l'institution du mariage avec un mélange de terreur et de curiosité, et d'avoir cette femme qui parle à nouveau à cette femme qui est sortie et qui a trouvé la porte fermée derrière elle, sans retour. Ça a créé véritablement un bon écho pour moi.
Vagabonde sur France Inter.
À Berlin,
continua-t-elle au bout d'un instant,
Mon fils a fréquenté un collège privé très cher, payé par l'ambassade, où nous avons rencontré un grand nombre de gens riches qui fréquentaient le beau monde. Je n'avais jamais vu des femmes pareilles. Presque toutes travaillaient, médecins, avocates, comptables, et la plupart avaient beaucoup d'enfants, 5 ou 6 chacune, dont elles supervisaient l'existence avec une diligence et une énergie fascinantes. Bref, elles géraient leur famille comme des entreprises prospères, en plus de leurs exigeantes carrières professionnelles. Pour couronner le tout, ces femmes étaient soignées et dans une forme olympique. Elles faisaient de la gym tous les jours, participaient à des marathons pour des organisations caritatives, étaient aussi fines et toniques que des lévriers, et portaient toujours les vêtements les plus chers et les plus élégants, même si en général, leur corps sinueux était asexué. Elles allaient à l'église, faisaient des gâteaux pour la kermesse de l'école, présidaient des débats de société, organisaient des dîners où l'on servait 6 plats, lisaient les derniers romans sortis, allaient à des concerts, jouaient au tennis et au volley le week-end. « Une seule femme de ce genre, ce serait déjà impressionnant, » dit-elle. « Mais à Berlin, j'en ai rencontré des quantités. » « Il y a des fois, » dit-elle, « où je me suis demandé si l'épuisement que j'ai éprouvé à notre retour de Berlin n'était pas l'épuisement collectif que ces femmes refusaient d'admettre et qu'elles m'avaient transmis. On avait toujours l'impression de les voir courir. Elles couraient partout, pour aller au travail et en revenir, au supermarché, en groupe pour un footing dans un parc. Elles se parlaient aussi facilement que si elles étaient immobiles. Et si elles devaient s'arrêter à un feu, elles sautillaient sur place dans leurs énormes chaussures de course blanches, jusqu'à ce que le feu passe au vert et qu'elles puissent reprendre leur progression. Le reste du temps, elles portaient des chaussures plates à semelles en caoutchouc, suprêmement pratiques et suprêmement laides. Le seul détail inélégant chez elles était leurs chaussures, dit-elle. Et je suis persuadée que la clé de leur nature mystérieuse réside là, car ces chaussures sont celles des femmes dénuées de vanité.
Rachel Kusk, c'est une partie de votre livre qui ressemble fortement à du roman. Comment est-ce que de telles femmes peuvent exister?
I only wrote down what I heard.
Je n'ai écrit que ce que j'ai entendu.
I think that sometimes,
je crois que parfois,
I think women are very susceptible.
Les femmes
the male equivalent is a
sont très
susceptibility.
Susceptibles. Les hommes sont susceptibles d'une autre manière.
Women as doing things better than them.
Ça les ennuie de voir que d'autres femmes font des choses mieux qu'elles.
Female,
ça fait partie de...
It's not really sort of aspiration.
C'est pas une aspiration, comment dire?
It's a form of self-deprecation, I suppose, or self-doubt, really.
Une forme de doute de soi.
A kind of woman that you should be.
Ça, voilà, on regarde une femme telle qu'on devrait l'être.
Desire it. And as I say, the Angeliki.
On le méprise et on le désire en même temps. Et ce personnage, Angeliki, n'est pas certaine d'où elle en est. Elle hait ces femmes-là, mais elle les admire. Mais...
Voilà,
et puis elle dit à un moment qu'elle a perdu le contact avec son enfance parce qu'elle a choisi d'être écrivain plutôt que d'avoir des enfants, je ne sais pas. En tout cas, ça la hante, ces femmes.
En tout cas, il y a un moment où la narratrice arrive quand même à ce pourquoi elle est partie, c'est-à-dire qu'elle va finir par diriger cet atelier d'écriture à Athènes pour lequel un certain nombre de personnes se sont inscrites et ont payé pour cela. Et il va être question de littérature. Et elle va demander à ses étudiants d'arriver avec une histoire, quelque chose qu'ils ont remarqué en venant, et puis un petit peu plus tard, ce sera de raconter, d'écrire une histoire qui leur est arrivée et qui est importante. Et là, il y a une des participantes qui va protester très violemment et elle va dire que c'était pas du tout ce qui était prévu parce que pour elle, écrire, c'est imaginer. C'est évidemment pas raconter le réel. Et ça, ça devient vraiment le point crucial de votre écriture, Rachel Kusk. Écrire avec le réel, écrire. On n'a pas besoin d'imaginer.
Yes, that was a provocation.
C'était une provocation, d'une certaine manière.
It's a debate that goes on in England all the time.
C'est un débat récurrent en Angleterre en ce moment. Il y a quasiment de la honte à ne pas inventer des choses.
I mean, another sort of function of that.
Une autre fonction de ce monde d'écriture créative ou de cours d'écriture créative qui n'existe pas en France, mais qui existe vraiment beaucoup en Angleterre et aux États-Unis, c'est
some technical points, really, about,
de soulever quelques détails techniques
what writing is,
sur ce qu'est l'écriture.
For someone who, is that's really the only thing that they can do,
or it is their la seule chose qu'ils peuvent faire medium. Ou dont c'est le métier, le média.
The communal activity of,
l'activité commune
these students all sitting
de ces étudiants qui sont là tous ensemble.
And they're talking,
ils écrivent
et
ils en parlent. Et bon, c'est, le parler, l'écriture se fondent. C'est une des suggestions que je fais.
Reminiscences or their utterances shape by
elle donne une forme la narratrice à ce qu'ils disent et que ça doit répondre à un besoin véritablement. Dans l'exercice suivant, chacun doit mentionner un animal dans l'histoire qu'il raconte et on voit comment ça structure simplement leur récit.
And that's really sort of, I suppose,
et je suppose que c'est le début de la façon dont on peut montrer quelle est leur qualité, leur capacité à écrire. Que l'imagination, c'est pas tellement ça qui est important, c'est l'arrangement technique de la réalité, de la façon de regarder les choses qui supplée l'imagination.
D'ailleurs, dans cet atelier d'écriture, Rachel Cusk, il y a une des histoires les plus extraordinaires qu'il y a dans ce livre. C'est l'histoire du chien Mimi, qui est absolument insupportable, goulu, qui dévore tout ce qu'il y a dans la maison. Et qu'on en revient à ces femmes qui veulent être parfaites, que la mère de famille tente désespérément d'éduquer, de nourrir et de maintenir dans des conditions vivables pour tout le monde jusqu'au jour où le chien s'échappe. Et elle raconte un véritable enfer domestique que personne autour d'elle ne peut imaginer. Et puis, c'est très intéressant parce qu'à la fin, un garçon qui est dans l'atelier d'écriture lui dit « Mais c'était juste parce que vous aviez choisi le mauvais chien. » Et là, on voit tout de suite, les femmes peuvent comprendre ce qui s'est passé dans la famille, comment faire avec le chien, alors qu'un homme va dire « Mais non, il suffisait de prendre une autre marque de chien. »
I suppose again that's the vulnerability of.
Mais je pense qu'il s'agit là de
any narrative,
la vulnérabilité de tout récit. Et voilà, et s'il n'y a pas d'empathie dans le public, et cet atelier d'écriture, c'est une analogie en quelque sorte pour
self-expression, the rules of self-expression,
les règles de l'auto-expression.
And how it's received by others, what it
comment c'est
does to
reçu
them,
par les autres, ce que ça leur fait, si ça leur fait quelque chose.
I mean, the other thing that really interested me,
une autre chose qui m'a intéressé,
really sort of show in the book,
montrer dans ce roman, c'est
grasp of literary form, of what we call,
quelles sont les formes natives de ce que l'on appelle les formes narratives quand les gens sont propriétaires de leur propre histoire. C'est la seule chose que vous possédiez vous-même, votre histoire. Je voulais que l'on revienne à cette idée que en fait le récit, c'est la propriété de tout un chacun. Et la capacité de l'écrire, c'est autre chose. La capacité de raconter l'histoire, de bien la raconter. Eh bien, voilà, on est conditionné à le faire déjà avec des petits-enfants, quand ils vont à l'école. Et on apprend très rapidement quand on est parent, vous savez. Les enfants apprennent très rapidement cela aussi. Quand on dit quelque chose, les parents rigolent, et puis quand on dit autre chose, personne ne le comprend. Donc il y a déjà ce filtre de l'expérience.
to me heartbreaking,
pour moi, c'est,
an important thing about
c'est quelque chose
humans.
Qui fend le cœur et qui en dit beaucoup sur l'être humain. Et oui, et vous passez par tous ces problèmes pour raconter une histoire très importante. Et puis le type à côté de vous dit, bah non, vous aviez le mauvais chien. Voilà.
Perks and pitfalls of
c'est,
the job.
Mais vraiment, c'est tous les écueils de ce travail-là.
Et d'ailleurs, la conclusion de cette séance d'apprentissage de l'écriture, c'est une des étudiantes qui est là, qui s'appelle Sylvia, qui lit énormément, parce qu'ils sont tous venus là, parce que ce sont de grands lecteurs. Et elle, la passion qu'elle a dans sa vie, c'est D.H. Lawrence. Et puis tout d'un coup, un jour, ben, il ne se passe plus rien.
Je suis allée dans la cuisine, continua Sylvia, décidée à écrire une histoire, à essayer du moins. Mais tout ce qui me venait à l'esprit était cette phrase qui décrivait exactement ce que je vivais. Une femme se tenait dans la cuisine et se disait qu'elle allait essayer d'écrire une histoire. Sauf que cette phrase n'était reliée à aucune autre. Elle avait surgi de nulle part, ne débouchait sur rien non plus, pas plus que je n'allais quelque part en restant debout dans ma cuisine. Dans la pièce d'à côté, j'ai sorti un livre de ma bibliothèque, un recueil de nouvelles de D.H. Lawrence. C'est mon écrivain préféré, dit-elle. En fait, il a beau être mort, je crois que c'est la personne que j'aime le plus au monde. J'aimerais être l'un de ses personnages et vivre dans un de ses romans. Les gens que je rencontre dans la vie semblent dépourvus de personnalité, alors que l'existence est si riche quand je la regarde à travers ses yeux à lui. Et la mienne, en comparaison, paraît souvent stérile, comme un mauvais lopin de terre sur lequel rien ne poussera jamais, malgré tout le mal que je pourrais me donner. J'ai commencé à lire la nouvelle intitulée « Un pan en hiver ». C'est un récit autobiographique, précisa-t-elle, où Lawrence raconte son séjour dans un coin reculé de la campagne anglaise en hiver. Et au cours d'une promenade, un jour, il entend un son bizarre et découvre qu'un paon est pris dans la neige sur la colline. Il ramène l'oiseau à sa propriétaire, une femme étrange, dans une ferme voisine, qui attend que son mari rentre de la guerre. Arrivé à ce passage, dit-elle, j'ai cessé de lire. Pour la première fois, Lawrence échouait à me faire sortir de ma vie. Peut-être était-ce dû à la neige, la bizarrerie de la femme, ou au paon lui-même, mais soudain ces événements et le monde qu'il décrivait m'ont paru sans rapport avec moi, ici dans mon appartement moderne, en pleine canicule athénienne. Sans que je sache pourquoi, je ne le supportais plus, comme si j'étais l'otage de sa vision. Alors j'ai refermé le livre et suis allée me coucher.
Rachel Kusk, est-ce que cela signifie que nous tous qui sommes enfermés dans le zoo... et nous rêvons d'ailleurs grâce aux livres. Est-ce que pour arriver à sortir du zoo, il faut refermer les livres?
Well, it's interesting hearing that passage again. It did occur to me.
Ça m'a beaucoup intéressé de réentendre ce passage. Oui, peut-être que c'est ce que je dis là.
No matter how, I mean, D.H. You know, that in a way is a sort of love letter to.
C'est une lettre d'amour à D.H. Lawrence.
But the idea that. Even at its highest, that literature
mais
could,
même à son sommet,
merge somehow with
que la littérature puisse fusionner avec une échappatoire, alors que son travail le plus important, c'est de rester dans le monde, de vous expliquer le monde, de vous dire la vérité sur le monde. On peut aimer tellement ce message qu'on quitte le monde. On s'échappe, on s'en échappe grâce à cette vision. Et c'est cette idée-là que ça pourrait être mauvais. Et ça me trouble beaucoup, cette idée.
Rachel Kusk, pourquoi est-ce que, ça sera ma dernière question, pourquoi est-ce que la narratrice s'appelle Fay et pas Rachel?
That would cause too much trouble.
Ça ferait trop de problèmes.
More trouble than it's worth.
Beaucoup plus de problèmes que ça n'en vaut la peine. Je voudrais dire clairement que peu importe qui est cette narratrice, si je l'avais décrite comme chirurgien du cerveau à New York, ce serait très clairement que ce n'était pas moi. Donc, le poids serait différent. J'aurais dû la rendre plus crédible. Ça aurait dû se passer à un endroit un peu différent. Je voulais véritablement une silhouette. Voilà, je ne suis pas la seule femme divorcée au monde qui écrit. Il y a beaucoup de femmes comme ça dans le monde. C'est une projection sans effort Et ça me laisse la place pour le travail, pour le reste. Et c'était très important pour que le lecteur n'ait pas à réfléchir qui est véritablement la narratrice. Je ne les fais pas partir de la réalité en fabriquant cette fenêtre dans ce monde-là.
En tout cas, ce qui compte, Rachel Cusk, c'est que votre nom soit sur la couverture de ce formidable livre qui s'appelle « Distille en français », traduit par Céline Leroy. Et ça vient de paraître aux éditions de l'Olivier, que l'on remercie pour le cadeau. Merci à vous.
Thank you.
Et merci à Michel Zotowski, bien sûr. Bonsoir.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? I get a kick out of you. Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. That I get a kick out of you. Da, 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 da. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. That I get a kick out of you. Kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. That I get a kick out of you.
La semaine de l'humeur vagabonde s'achève ainsi. Nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, lundi. Je recevrai Emmanuel Bourdieu, qui sort un film très intéressant avec Denis Lavant à propos de Céline au Danemark. Et bien sûr, après 21h, vous avez rendez-vous avec Laurent Gaumard. Bonsoir Laurent.
Exactement. Bonsoir Kathleen Evin. Ce soir, dans le nouveau rendez-vous, ce sera Infiltré pour raconter, avec des grands reporters qui sont allés à la rencontre de Daesh et des salafistes, avec Patrick Rothman, l'écrivain-réalisateur qui aura rendez-vous avec le dessinateur Mathieu Sapin. On parlera aussi du Centre Pompidou et la musique, elle sera live bien sûr.
Eh bien, je vous souhaite une très bonne émission et puis on se retrouvera, nous, lundi en tout cas.
Oui, nous lundi et tout de suite avec les auditeurs.